Bonsoir, je me présente très très rapidement. Je m'appelle Olivier Plagnol, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je m'occupe plus particulièrement de Sud-Ouest Dimanche. Et donc je tiens à vous prévenir de suite, je ne suis pas du tout spécialiste de musique arabo-andalouse, ni de oud. Mais Mostafa m'a demandé très gentiment si je pouvais venir animer cette rencontre. Et c'est avec un grand, grand plaisir que je le fais. On lui avait consacré dans Sud-Ouest Le Mag, il y a quelques années, un long article. Donc voilà, je me suis replongé aussi un petit peu de ce qu'on avait pu écrire sur lui. Alors je me suis demandé cet après-midi quel mot pouvait le mieux symboliser le parcours du musicien Mostafa El Harfi. Passion, amour, curiosité, virtuosité, ils sont nombreux, ceux que l'on pourrait retenir pour ce parcours très riche et atypique. Et mon choix s'est arrêté sur le mot partage, parce qu'il réunit aussi un petit peu tout ça. Partage donc d'une passion, d'une curiosité, d'un amour, d'une technique, d'un art. Partage aussi et transmission. Car les deux mots vont ensemble, ces deux vertus vont ensemble. Je sais que le mot transmission pour Mostafa est extrêmement précieux. Alors le parcours de Mostafa El Harfi est donc fait de partage, cette valeur dont on a plus que jamais besoin, je pense que bon, tout le monde est d'accord. Partage, d'Oujda sur les bords de la Méditerranée, jusqu'à Bordeaux, en passant par Paris ou Montpellier, ces lieux de vie successifs. Partage avec ses innombrables élèves, partage avec tous les publics qui sont venus l'écouter, parfois quelques dizaines de personnes ou même une dizaine de personnes dans un appartement, parfois devant des centaines de spectateurs dans une salle de spectacle. Joueur de oud, musicologue, chercheur, enseignant, artiste tout-terrain, Mostafa El Harfi nous propose ce soir un énième moment de partage. Donc merci à lui. Merci à la librairie Mola de l'accueillir pour la présentation de son dernier album. Et merci à vous d'être présents. Début des années 60, à Oujda, au Maroc, comment est née cette passion pour la musique, Mostafa ?
Premièrement, je remercie le public d'être là. Je vous remercie bien sûr, Olivier, cher Olivier. Ma passion, c'était un enfant marocain des années 60, je suis né en 59, là où la musique était pas très sollicitée. Heureusement, j'avais un père qui, intellectuel, professeur, j'avais de la chance, qui m'a aidé pour cette passion. Moi, j'ai fabriqué mon premier instrument avec mes mains, ça veut dire un bidon avec une branche, et j'ai commencé à jouer. Et mon père a vu que je m'intéresse. Il m'a dit, Mostafa, est-ce que ça t'intéresse que je t'achète une guitare ? J'ai sursauté, parce que j'ai dit, mon père, il veut que je joue un instrument. Et j'étais là, quand je parle, je suis très, très ému parce que grâce à mon père que je joue cet instrument. Et j'étais toujours, quand il y avait les mariages, toujours à côté des musiciens, écouter, demander. Et là, j'ai commencé à avoir le goût de la musique. Et un jour, j'avais 14 ans et j'ai demandé à mes amis qu'on forme un groupe dans la maison des jeunes de quartier. Et c'est vrai, on a commencé avec des percussions, moi la guitare, etc. Ça commençait comme ça. Au retour de mon oncle, il était à Strasbourg, il est revenu au Maroc, après 10 ans d'absence, il m'a dit, Mostafa, que tu aimes quelque chose? Je lui ai dit, oud. Il a dit, pas de problème. J'ai parti avec lui, on achetait un oud. Et le oud, l'histoire du oud, c'est pas arabe, c'est perse. C'est au 7e siècle que ce luth, on appelle oud, ça veut dire bois, c'est parce qu'il est fabriqué avec le bois. Et c'est Ziryab qui était la virtuose du 7e siècle. On parlera après. Et donc, il m'a acheté le oud et je commence à jouer. Il y a une différence entre la guitare et le oud, une grande différence. Surtout le oud, il y a le quart de temps, qu'on ne peut pas jouer le quart de temps. On va le jouer après avec une guitare. C'est pas possible. Donc, c'est la recherche. J'ai commencé à chercher. Surtout à Oujda, on n'avait pas une école de musique. Et là, il faut chercher. Là, quand mes élèves sont là, je dis, vous avez de la chance, je suis là, je vous montre. Nous, à Oujda, on n'avait pas une école. Ce n'est pas comme Rabat, comme Casa. Ils étaient privilégiés. Moi, j'avais pas de professeur. Et on a commencé comme ça. Et arrivé d'un monsieur qui s'appelle Derfoufi, c'était notre professeur, on était très contents. Là, on a commencé à connaître les modes. Et on joue juste. Parce qu'avant, on ne peut pas dire qu'on jouait juste. Parce que la guitare à oud, ce n'est pas pareil. Donc, j'ai commencé mon aventure avec mes amis. Et il y a d'autres. On va...
oui. Alors, il y a l'importance et le rôle fondamental de votre père. Il y a une autre personne qui a beaucoup compté dans vos débuts. Vous partez pour un télécrochet, une sorte de star academy de l'époque au Maroc. Vous partez à Rabat, je crois.
Ah bah oui.
Et là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va également beaucoup compter et qui va vous donner et vous transmettre cette conviction.
C'est vrai.
Vous pouvez nous raconter ?
Là, j'avais, à cette époque, j'avais 19 ans. Je commence à jouer. Et j'avais l'audace de jouer, que je vais le faire, je vais le jouer, un morceau très important de Farid Al-Atrache, très difficile. À mon âge, 19 ans, je n'avais pas les moyens par exemple, d'avoir un professeur. Et je commence à jouer cette improvisation. Extraordinaire. Je suis parti à Rabat, c'était comme le Star Academy, et là, je suis trouvé avec un grand monsieur qui s'appelle Abdel Nabil Girari, il est décédé, un grand monsieur qui avait une émission, le Mawahib, mes amis. Après ça, il m'a aidé. J'ai passé, j'ai commencé à jouer, il m'a dit, tu t'arrêtes. J'ai pas compris, je dis, est-ce que j'ai fait une faute? Non. Il a demandé aux musiciens du joueur de oud de me donner son oud. J'ai pris le oud de ce musicien et j'ai commencé à jouer. Et là, j'ai vu la différence entre mon oud, parce que ce n'était pas un oud professionnel, et mon oud. Et quand j'ai commencé à jouer, je vous assure, c'était un plaisir. J'ai terminé. Après, il y avait une commission. On était 8 à être élus pour le tournage l'après-midi, à 15h. Qu'est-ce qui s'est fait? Ce professeur... il m'a demandé de partir manger avec lui. Je dis, dans ma tête, il y a les autres qui ont être aussi meilleurs. Pourquoi il m'a choisi? Il m'a dit, je choisis un que je vois qu'il a quelque chose dans ses mains. Mais il m'a dit, il ne faut pas être furieux, non. Ça veut dire qu'il faut continuer à jouer. Et de là, c'est mon père et ce monsieur qui m'ont donné l'amour de jouer de la musique et continuer. Et je vous assure, je joue chaque jour. Voilà.
Et ce monsieur, il vous a aussi offert une marque de confiance ce jour-là, enfin, lorsque vous l'avez rencontré, il vous a invité chez lui.
Oui, il m'a invité. J'ai mangé chez lui. Et après, il m'a donné même de 45 tours. Et il m'a donné aussi, parce que nous, on paye le voyage. Il m'a payé le retour. Ça, c'est extraordinaire, ce monsieur. Je l'aime beaucoup. Et je dédicace cette soirée aussi pour lui.
D'accord. Comment, donc après ces retours à Oujda, vous entrez au conservatoire, comment êtes-vous tombé amoureux de la musique arabo-andalouse?
Le fait de passer à la télévision, il y avait une seule chaîne, on était des stars. Là, ça. Tout le monde, c'est pas comme aujourd'hui, les 360 chaînes, etc. Tu passes à la télévision. Et moi, je n'étais pas fan de la musique arabe-andalouse. Un jour, il y avait deux personnes, le président et le secrétaire, venus chez moi. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez s'inscrire à notre association de Gharnati et savoir que cette association, on va fêter un siècle en 2021. C'est grâce à Mohamed Ben Sebaïl, algérien, qui a fondé cette association en 1921. Donc bientôt un siècle, on va le fêter avec tous les musiciens qui sont en vie, bien sûr. Voilà, et je me suis retrouvé à cette association et je suis fan de la musique arabe-andalouse qui est extraordinaire. Et c'est pas pareil, la musique andalou que je joue, c'est le Gharnati. C'est pas comme les musiciens des villes impériales, Fès, Meknès, etc., qui jouent un autre style, mais dans le cadre de la musique andalouse. Et la musique andalouse, ce sont des noubas et des nqilabat que je vais jouer à la deuxième partie.
D'accord. Dernière question, peut-être avant une première intermède musical. Comment se décide et pourquoi, quelle est votre motivation, votre départ en France? C'était au milieu des années 1980.
En 1985, j'ai décidé de partir dans un autre pays parce que mes études, c'était l'islamologie et je me suis inscrit à la Sorbonne pour histoire de la philosophie. C'est pas de la musique, mais aussi sur le sophisme. Et c'est un autre sujet. Et je me suis retrouvé à Paris. Et Paris, c'est la capitale, c'est extraordinaire. Et je me suis retrouvé avec des grands musiciens. Et là, on a partagé notre musique avec des jazzman et c'était avec des joueurs de flamenco. C'est parce que Paris, c'est une richesse. Et de là, j'ai commencé à jouer à Cité Universitaire parce que j'avais la chance d'habiter à Maison du Maroc, Cité Universitaire. C'était que pour les thésards. Et de là, j'ai créé une association aussi de la musique Arnati. Et l'arrivée de l'Institut du Monde Arabe, j'étais un membre actif. Et c'est elle aussi qui m'a ouvert les portes à Paris.
Et c'est le début aussi d'une grande et belle aventure qui se poursuit d'enseignement et de transmission. Partout où vous êtes passé en France, vous avez tenu à enseigner votre art.
À Montpellier aussi, parce que j'ai quitté Paris vers Montpellier, après vers Bordeaux. Les gens se demandent pourquoi, parce que madame, c'est une responsable d'une banque. Moi, toujours, quand je commence à percer, allez, on va à Montpellier. Je n'ai pas de problème. J'étais à Montpellier 4 ans. Après, c'était de 1996 à 2000. Et de 2000 jusqu'à maintenant, je suis à Bordeaux. Je suis très, très content. Enfin, je travaille dans toutes les communes. Je suis très, très sollicité. Et voilà. Donc, j'étais très ravi. Et ce déplacement m'a fait découvrir des musiciens. Par exemple, si j'ai un spectacle à côté de Montpellier, j'ai toujours mes musiciens de Montpellier. Si je suis par exemple à Paris ou à Bruxelles, j'ai mes musiciens de Paris qui vont avec moi. Donc ça, ça m'a fait aussi quelque chose de bien, ces déplacements-là.
Est-ce que vous pouvez nous raconter les origines donc du oud?
L'origine de oud, c'est perse, c'est Iran. C'est au 7e siècle que Salman le Perse a amené un oud avec 4 cordes qui n'étaient pas doublées. La première, la deuxième, la troisième. Et on accorde Do, Sol, Ré, La. Do, Sol, Ré, La. Donc, Do, Sol, Ré, La, c'est le principe de oud. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième corde. La cinquième et la sixième, c'est que des octaves. Voilà. Et ce oud, il a voyagé par jalousie. Pourquoi? Parce que Ziryab, son nom, c'est Ali ibn Nafi', son professeur, Ishaq al-Mawsili était jaloux parce qu'il était très sollicité par les sultans Ali ibn Nafi', Ziryab. Ziryab, ça veut dire le merle, un oiseau. Et comme il était brun, donc on l'appelait Ziryab. C'est un mot perse. Et de là, Ziryab, qu'est-ce qu'il a fait avec ce oud? Parce que ce oud, il a voyagé. Il a voyagé de Perse vers Bagdad, Irak, puis Tunis, puis Abdelrahman Ier, le sultan, avait des échos. Donc il a demandé à Ziryab de venir à Cordoba. Et de là, ce oud est la cinquième corde. Et après les Irakiens, la sixième corde. Et toutes les cordes, presque, sont les cinquièmes cordes sont doublées. Et la sixième, je préfère qu'elle n'est pas doublée parce que c'est un son grave. Donc, et le bois, c'est très important. Oui, l'épaissia, red cedar, c'est très important pour le oud. Et toujours, c'est la table d'harmonie qui est très important pour le oud.
Quelles sont les différentes parties? Vous pouvez nous les décrire, les différentes parties de l'instrument?
Les parties, il y a bien sûr, il y a la table d'harmonie qui est très importante, ou bien avec red cedar, c'est ça, ce côté. Et bien sûr, si vous avez vu la manche, comment il est, et c'est très difficile pour mettre les cordes, mais avec l'habitude, on peut. Et les clés en ébène, voilà. Et là, si vous avez remarqué, le chevalier, il est accroché ici. Et c'est le oud, il est en fa, parce que des fois, là, c'est en do. La première corde en do, on le laisse ici, parce que la puissance, elle est faible. Mais quand on met la première corde en fa très aiguë, on met le chevalier ici, à cette place. On a un autre ici. Comme ça, quand on joue, même avec la pression, il ne peut pas se décoller. Voilà. Et c'est un instrument, celui-là, il a 45 ans.
Indestructible.
J'ai un autre qui a 90 ans, il est au Maroc, je vais le faire venir pour le concert que je veux faire au Rocher de Palmer, le 30 avril, avec mes musiciens de Oujda. Et il y aura d'autres prestations que je vais en parler.
Et vous avez prouvé, vous avez joué avec des jazzmen, dans différents types de musique celtique, vous avez prouvé que c'est un instrument qui peut effectivement se marier avec quasiment tout type de musique.
Oui, cet instrument, il est très, très, très utile. Il est très, on peut jouer avec les jazzmen, on peut jouer avec n'importe quelle musique du monde. C'est adaptable. Donc c'est un instrument qu'on peut... J'ai joué avec des jazzmen. On a fait jazz oriental, avec, comme je joue la musique andalouse, on a joué avec aussi des musiciens de flamenco. Ça, c'est beau. Comme quoi, la fusion, c'est très, très, très important dans notre vie. Parce qu'on a des musiciens, des rencontres, ça, c'est très important. Comme ça, on se connaît, on évite les problèmes de ce monde-là.
C'est également un instrument, vous me dites si je me trompe, mais qui a influencé et, la création d'autres instruments.
Bien sûr, le oud, c'est le père. Après, on a la guitare, après la mandoline, toutes presque les instruments à cordes qu'on voit.
Descendent du oud.
Descendent du oud, voilà.
Alors, on va parler un petit peu de musique, un petit peu, beaucoup, hein, si vous le souhaitez, de musique arabo-andalouse. Pareil, la même question. D'où vient ce genre ?
La musique arabo-andalouse, c'est Ziryab. On a parlé de Ziryab, Ali ibn Nafi', à Cordoba. Il a créé cette école avec des noubas. Les noubas, ce sont des mouvements. Ça veut dire il y a cinq rythmes. Une nouba qui est complexe, il faut qu'il passe par cinq rythmes. S'il n'y a pas de cinq rythmes, il est inachevé. Donc, nous, maintenant, on a des noubas complète, comme la nouba Taram al-Maya, etc. Il y a d'autres noubas, comme l'Arak, qui n'est pas complète, parce qu'avec le temps. Pourquoi ? Parce que notre musique arabo-andalouse, c'était transmise par le shir à l'élève, ça veut dire le prof à l'élève, c'est avec l'oreille. Et avec le temps, donc cette musique, c'est pas disparu, mais il dû disparaître. Hein. Et grâce aux juifs marocains, qu'ils ont sauvegardé ce genre de musique arabo-andalou, parce que là, chez nous, c'était l'interdiction dans certaines époques des instruments à cordes. Donc les juifs jouaient dans les mallahs, ce sont des quartiers, et il y a des musiciens musulmans qui partagent avec eux ce moment. Donc cette musique, heureusement, grâce aux juifs, grâce aussi au sama. Qu'est-ce que c'est le sama? C'est le chant sans instrument. Et on a maintenant que 12 noubas au lieu de 24 noubas. Vous voyez, on a perdu beaucoup de noubas, mais heureusement, maintenant, on a sauvegardé ce patrimoine. Moi, je parle du côté Gharnati, parce que nous, à Oujda et Tlemcen et Alger Capitale, on a une école qui s'appelle Gharnati. Ce n'est pas de Grenade, mais on s'appelle Sana'a. Mais la musique andalou, l'Ala, c'est... Ce que jouaient nos amis de Fès Meknès, ce n'est pas pareil. Hein. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais au niveau des instruments.
Vous avez dit, enfin, dans l'article que je citais tout à l'heure, que c'est une musique festive, poétique, qui chante aussi le vin, la joie, les femmes.
Exactement. On a des noubas qui parlent, par exemple, Noubel Taram al-Maya, c'était pour les femmes et le vin, mais il avait de la censure. Et cette Noubat Taram al-Maya maintenant, c'est que la poésie religieuse. C'est pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. Parce que on n'a pas respecté l'histoire. Parce que normalement, si cette Nouba est faite pour l'amour, le vin, les femmes, etc., il faut pas la censurer. Mais c'était comme ça. C'est la seule qui était... touché. Par contre, les autres noubas, il y a le printemps, il y a la patrie, il y a la nostalgie, etc. Donc voilà. Donc il y a une différence de noubas.
Et vous dites aussi que c'est une musique d'ouverture. Est-ce que pour vous, c'est le symbole de ce qu'a pu apporter le mélange de deux civilisations, de deux cultures, cette musique, cet art arabo-andalou en général?
Oui, c'est un partage pour moi. Ce genre de, comme toutes les musiques, c'est un partage. On partage cette musique avec n'importe quelle nationalité. Et la preuve, j'ai fait une expérience avec des jeunes de Crayon, des adolescents. On a choisi Whist et on a travaillé avec eux. Et je les ai amenés avec, par le biais du ministère de la Culture au Maroc, à Oujda, ma ville natale. Donc c'est un partage, parce que eux, arrivant à Oujda, c'est le berceau de la musique granatée et ils jouent de la musique granatée. C'est extraordinaire, parce que là-bas, ils disaient des Français, des jeunes Français qui vont jouer ce genre de musique. C'était un défi pour moi. Et j'ai réussi. Pourquoi ? Parce qu'on a l'oreille, on peut jouer n'importe quelle musique. Au Maroc, par exemple, les gens, il y a des gens qui chantent le chant hindou, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème. Quand on a l'oreille, on peut chanter, on peut jouer. Donc, pour moi, c'est vrai, c'est un partage. On partage notre passion avec tout le monde. Quand on, une fois, on a fait l'expérience, on a joué, on a chanté des chansons arabo, andalou et espagnol. Ça, c'est beau. On a partagé. Et aussi, il y a de la joie. Le rythme pour la musique Gharnati, c'est Makhlas, le dernier. Et les festivals, on va le faire. Ça fait danser, donc c'est pas que un rythme qui est lent. Non, il y a aussi le rythme qui fait danser pour la joie. C'était fait pour ça, les Nouba.
La Nouba pour la joie, c'est très bien. Est-ce qu'on peut poursuivre sur une ou deux questions sur votre rôle et votre passion de l'enseignement et donc de la transmission ? Vous pouvez nous parler en quelques mots de l'Association des artistes marocains, par exemple, et le travail que vous effectuez avec cette association ?
L'Association des artistes marocains, qui est basée bien sûr à Mérignac, le rôle, c'est la transmission de cette culture arabo-andalou et apprendre à jouer des instruments traditionnels. Il y a des masterclass, il y a aussi des stages, il y a des cours. C'est ouvert à tout le monde. On a des Français, comme on a des Sénégalais, de tout le monde. Ceux qui aiment cet instrument, ils viennent. La porte, elle est ouverte. Donc, c'est ça le but. On fait beaucoup de choses avec la musique. On fait aussi musicocalligraphie. La musicocalligraphie avec mes amis Ahmed et d'autres, qu'on essaie de travailler. Moi, je joue et je chante. Et mon ami calligraphe, il passe avec sa belle écriture. Yaqalbi, il écrit à sa façon et c'est extraordinaire. Ça, c'est un autre travail, musique calligraphie. On fait aussi les cantes, plusieurs choses dans notre association. Et aussi le voyage vers le Maroc ou d'autres pays. Ça, c'est très important.
Vous œuvrez aussi de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, avec l'association ? Enfin, vous faites aussi des choses
bien sûr,
au Maroc ?
Comme je t'explique, on fait des choses avec le Maroc. Mm-hmm. Avec une autre association qui est Mécher, Monselia aussi, on fait des échanges. Ils viennent chez nous et on va chez eux. Et ça, c'est très beau. On a ce passerelle et c'est beau. La culture, la musique, ça fait réunir les gens, c'est très important pour nous.
Vous en êtes à combien d'années de musicien ? Vous avez fêté déjà il y a 2 ans vos 40 ans de pratique, c'est ça ?
Oui, à Rocher de Palmer, j'étais invité pour fêter mes 40 ans de oud. Et là, je suis de 43 ans maintenant.
Vu la forme que vous en avez encore pour quelques années.
Jusqu'à la mort, j'espère. Moi, je ne peux pas. Je vous dis quelque chose. Je ne fume pas, je ne bois pas, mais c'est ça. Je ne peux pas un jour ne pas jouer. Je joue de la musique. C'est ma passion.
Un jour sans août, ça n'existe pas.
C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, je vous l'assure.
On ferme les yeux, on peut s'imaginer à Cordoue, à Séville, à Rabat, à Tanger, à Alger. C'est la beauté de votre musique.
C'est vrai. Il faut savoir quelque chose. Moi, en 1981, c'était ma première sortie en Europe, c'était en Espagne, c'était la musique des jeunes, c'était à Cordoba, Grenada, Cádiz, etc. J'étais invité avec 30 musiciens d'Oujda. Je vous assure, le moment où, quand on joue ce genre de musique là-bas, c'est extraordinaire. Parce qu'on avait 21 ans, on dit que cette musique était là. Quand on l'a joué à Oujda, c'est vrai, on a l'émotion. Mais quand on joue ce genre de musique à Cordoba, Grenada, on fait revivre ce genre de musique de Ziryab. Et ça, c'est très important. Et vraiment, on voit les larmes aux yeux des gens qui sont là-bas. Et c'est extraordinaire, ce genre de musique. On essaie de la sauvegarder. Et ça, c'est notre devoir. Et c'est la continuité. C'est pour ça que la transmission, c'est très importante. Et on essaie toujours de partager. Voilà.
Bah écoutez, c'est chouette de le partager aussi ce soir avec vous. Quelques mots sur ce dernier album. Qu'est-ce qu'on y trouve? Quelle est son histoire?
Ce dernier album, c'est bien sûr le Cocher de Soleil, c'est la région.
Qu'on a écouté.
Voilà. Et le deuxième, c'était ma mère, qui est décédée en 2009. Et quand j'ai composé cette chanson, j'ai commencé à composer, j'ai eu les derniers moments avec ma mère avant de la quitter du Maroc. Et ça m'a choqué. J'ai dit, il faut que je laisse quelque chose à ma mère, Aziza, qui s'appelle Aziza. Et là, j'ai composé la deuxième. Et là, la troisième, c'était Saad, mon grand, parce que j'ai quatre enfants. Saad, j'ai dédié ça pour mon grand. Et comment je vois mon grand frère, mon fils. La deuxième, Yazid, mon deuxième. Ils sont des sportifs, ils ne sont pas des musiciens. Que Yazid un petit peu. Ma fille, Wiam aussi. Et mon fils, Mehdi. Donc chacun de mes enfants, je voudrais laisser quelque chose à mes enfants. Et aussi le dialogue avec mon père, aussi ma famille, toute la famille. Et après, des maqamat comme le Hijaz, comme le Bayati, comme le Saba, aux gens qui veulent voir comment je joue ce genre de musique orientale. Voilà.
C'est un vrai album de famille. Vous pouvez nous parler aussi de vos projets. Qu'est-ce que vous nous préparez?
Il y a beaucoup de projets, bientôt avec les étudiants, une association des étudiants marocains de l'université, un spectacle pour les étudiants. Un grand événement aussi.
Ça
c'est le 11. Et on a aussi le 24 mars, il y a un colloque, ils m'ont invité l'association l'étudiant de Blaye. Le 24 mars, dans une très belle salle, la Citadelle de Blaye. C'est magnifique. J'étais de Bourg, pardon. De Bourg, parce que Bourg, c'est une ville que j'adore aussi, que j'y vais souvent. Bourg, il y a des colloques ici. Il y a aussi je vais chanter et je vais jouer. Là, ça ne va pas être la discussion comme maintenant, ça va être la fête aussi, je vais donner tout là-bas. Et bienvenue à vous. Il y a le grand aussi, il y a beaucoup, mais ce que je suis toujours en attente, c'est les jeunes où je dis qu'ils vont venir, les professionnels de la musique granatée qui vont jouer avec moi le 30 avril au Rocher de Palmer. Chaque deux ans, le Rocher de Palmer m'invite et j'invite des musiciens d'Oujda, les professionnels. Voilà, c'est le 30 avril. Il y a d'autres et d'autres et d'autres. Sur mon site internet, vous allez le voir aussi. Merci.
Merci.